Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la Sainte Sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute Radio Téhéran en ce lundi 16 mai 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique, Arabie Émirat coup d'état croisé. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute, restez avec nous. La diplomatie iranienne a critiqué les États-Unis pour avoir utilisé les droits de l'homme comme un outil pour atteindre leurs objectifs. Législative libanaise, 41,04% le taux de participation, une bataille contre les États-Unis et Israël, selon Gebran Bassil, et le Mali annonce son retrait de l'organisation régionale G5 Sahel. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, dans un discours devant un rassemblement d'organisations non gouvernementales iraniennes bénéficiant du statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations unies, dimanche 15 mai, a critiqué les États-Unis pour avoir utilisé les droits de l'homme comme un outil pour atteindre leurs objectifs, affirmant que le concept sublime avait été réduit à un jouet par Washington. En raison de l'approche adoptée par les centres de pouvoir dans le monde, la question des droits de l'homme est devenue un outil politique pour faire avancer les objectifs de ces centres, a regretté M. Khatibzadeh avant de décrire les États-Unis comme un État qui utilise les droits de l'homme comme un moyen de faire avancer ses objectifs dans sa boîte à outils de politique étrangère, ce qui a malheureusement conduit à une insignifiance du concept transcendant des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme du pouvoir judiciaire iranien a condamné l'assassinat de la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh, soulignant que le régime israélien doit être tenu responsable de ce crime par la communauté internationale. Le Conseil judiciaire des droits de l'homme a publié une déclaration sur la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh, qui a récemment été martyrisée par les troupes du régime sioniste en Cisjordanie, soulignant que le régime sioniste doit être comparu devant la justice. Le communiqué note qu'Abu Akleh est l'un des 82 journalistes assassinés par le régime usurpateur au cours des 4 dernières décennies, alors que le régime sioniste intensifie ses crimes dans les terres occupées de Palestine. Selon Médecins sans frontières, 35 journalistes ont été tués en exerçant leur métier dans les territoires occupés palestiniens depuis 2000, dont Shirin Abu Akleh. 41,04% des Libanais ont voté ce 15 mai pour élire leur nouveau parlement, a indiqué le ministre libanais de l'Intérieur, Bassam Moulaoui. Étaient en lice 103 listes avec 718 candidats pour les 15 circonscriptions électorales pour élire 128 députés. Les forces de sécurité intérieure ont été déployées à l'extérieur et à l'intérieur des bureaux de vote afin d'assurer la sécurité des élections et des électeurs, tandis que l'armée libanaise a pris en charge la sécurité du voisinage des bureaux de vote. Le président libanais Michel Aoun, le premier ministre Najib Mikati et le président du Parlement Nabih Berri ont déposé leur bulletin de vote tôt dans la matinée du dimanche dans leurs districts respectifs. M. Aoun a appelé les Libanais à voter en masse, affirmant que les citoyens ne peuvent pas rester impartiaux quand il s'agit des questions fondamentales liées au choix du système de gouvernance du pays. Les élections ont pour objectif de choisir un nouveau Parlement pour un mandat de 4 ans avec la participation de 718 candidats, dont 118 femmes en lice pour 128 sièges. Le processus électoral se tient sous le contrôle de plusieurs organisations nationales et internationales, alors que l'on dénombre environ 3,9 millions d'électeurs éligibles, dont 225 000 expatriés qui ont voté la semaine dernière, selon le ministère de l'Intérieur. Après avoir voté dans la deuxième circonscription de Beyrouth, le numéro 2 du Hezbollah, Sheikh Naïm Rassem, a déclaré « Ces élections sont cruciales, car elle nous transfère de la phase de l'effondrement à celle de la renaissance. » Selon un décompte encore provisoire, le député du Hezbollah, Mohamed Raad, aurait obtenu le plus grand nombre de voix du scrutin 2022 en récoltant plus de 46 000 voix dans la circonscription 3 du sud du Liban. Lors de sa première apparition télévisée après le scrutin législatif, M. Gebran Bassil, le ministre libanais des Affaires étrangères, a déclaré que la bataille électorale au Liban était contre les États-Unis et Israël. L'argent qui a été dépensé lors des élections provenait d'un protagoniste régional bien connu, ce qui indique que la bataille se situe à ce niveau, a-t-il accusé, faisant allusion à l'Arabie saoudite, dont les ingérences de l'ambassadeur au Liban ont été très flagrantes durant les derniers jours qui ont précédé le scrutin pour soutenir les candidats des forces libanaises de Samir Jadja et ceux du PSP du leader druze Walid Jumblatt. Surtout que le boycott du chef du courant du futur Saad Hariri avait laissé un grand vide, notamment au sein de la communauté sunnite. Les élections se tiennent conformément à une loi proportionnelle adoptée en 2017 et en l'absence du principal leader sunnite Saad Hariri, qui les boycotte. Selon le correspondant d'Al-Manar, des éléments des machines de vote des forces libanaises ont semé la panique dans certaines régions pour intimider les électeurs, surtout ceux du courant patriotique libre, et empêcher le bon déroulement du scrutin. Des exactions ont été signalées dans la région de Chekra contre des partisans du CPL et des menaces ont été proférées en direct sur la télévision contre l'avis de son chef, Gebran Bassil. Le président finlandais et le comité gouvernemental en charge de la politique étrangère ont pris dimanche 15 mai la décision officielle d'entamer le processus de demande d'adhésion du pays à l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Le 15 mai, le président de la République et le comité ministériel en charge de la politique étrangère et de sécurité du gouvernement ont finalisé un rapport sur l'accession de la Finlande à l'OTAN. Ce rapport sera présenté à la session plénière du gouvernement ce dimanche et après son approbation, il sera soumis au Parlement, a indiqué le gouvernement dans un communiqué. S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe avec la première ministre Sanna Marin, le président Sauli Niinistö a décrit ce jour comme historique alors qu'une nouvelle ère s'ouvre. Selon lui, la sécurité de la Finlande n'est pas un jeu à somme nulle, elle ne vise personne. Saluant également ce jour historique, Mme Marin a ajouté qu'après l'approbation du Parlement, le gouvernement proposera au président d'envoyer la demande d'adhésion à l'OTAN. Or, la Russie a averti qu'elle renforcerait sa frontière avec la Finlande si les armes de frappe de l'OTAN y sont déployées, a averti dimanche Viktor Bondarev, président du comité de défense et de sécurité du Conseil de la Fédération. Si l'OTAN déploie des armes offensives, des armes de frappe en Finlande, nous renforcerons notre frontière et y augmenterons la présence des troupes russes, a-t-il déclaré sur Telegram, qualifiant l'intention de la Finlande de rejoindre l'OTAN de perturbante au sens géopolitique. le Mali annonce son retrait de l'organisation régionale G5 Sahel. Le Mali s'isole encore un peu plus. Bamako a annoncé dimanche 15 mai son retrait du G5 Sahel et de sa force militaire anti-extrémisme pour protester contre le refus qui lui est opposé d'assurer la présidence de cette organisation régionale formée avec la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger. Le gouvernement du Mali décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe, indique son communiqué. Le G5 Sahel avait été créé en 2014 et sa force anti-extrémiste lancée en 2017. Le Mali fait depuis le 9 janvier l'objet de sanctions économiques et diplomatiques des États ouest-africains qui reprochent à la junte de vouloir se maintenir au pouvoir encore plusieurs années. Après deux putschs en août 2020, puis en mai 2021. Cette nouvelle décision survient après l'annonce, début mai par la junte, de la fin du traité de coopération de 2014 avec la France, ainsi que des accords de 2013 et 2020 fixant le cadre juridique de la présence de la force Barkhane et du regroupement de forces spéciales européennes Takuba, initié par la France. Le Mali est le théâtre depuis 2012 d'opérations de groupes extrémistes liés à Al-Qaïda et à l'organisation Daesh, ainsi qu'à des violences de toutes sortes perpétrées par des milices autoproclamées d'autodéfense et des bandits. Ces violences, parties du Nord en 2012, se sont propagées au centre, puis au Burkina Faso et au Niger voisin. Elles ont fait des milliers de morts civiles et militaires ainsi que des centaines de milliers de déplacés malgré le déploiement de forces onusiennes, françaises et africaines. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Arabie Émirat, coup d'État croisé. Est-ce une simple coïncidence ou s'agit-il d'un ménage dans le camp des alliés des États-Unis au Moyen-Orient? L'émir d'Abu Dhabi est président des Émirats arabes unis, le cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan étant récemment décédé pour être remplacé par Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Devrait-on s'attendre à un pareil scénario en Arabie Saoudite avec Mohammed bin Salman, comme prince héritier qui a déjà montré un grand talent de servir les intérêts des Américains et Israéliens? À quoi ressemblera la donne au Moyen-Orient où les deux architectes de la guerre du Yémen ont déjà beaucoup de mal à maîtriser la situation? Sans surprise, le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, a été déjà considéré comme le dirigeant de facto des Émirats, car il était en charge des affaires du pays, même du vivant de son demi-frère Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, mais la mort de ce dernier va étendre ses pouvoirs. Selon les médias émiratis, la cause du décès de Khalifa Ben Zayed, 73 ans, était un accident vasculaire cérébral. Bien sûr, il souffrait de cette complication depuis 2014 et n'apparaissait pas en public. Il convient de mentionner qu'il existe des points suspects concernant l'annonce du décès, l'organisation de la cérémonie funéraire et sa couverture médiatique. En fait, à l'instar du gouvernement de Salman bin Abdelaziz en Arabie Saoudite, où l'administration des affaires était pratiquement confiée au prince héritier Mohammed bin Salman, un tel scénario a été mis en œuvre aux Émirats au cours de ces années et Mohammed bin Zayed était considéré comme le dirigeant du pays. En fait, le rôle du Khalifa récemment décédé des Émirats et du roi d'Arabie Saoudite étant désormais malade et hospitalisé était plutôt protocolaire et dans la pratique, les deux pays étaient gouvernés par leur prince héritier. Bien que Ben Salman et Ben Zayed aient pratiquement gouverné leur pays durant ces années en rompant les tâches définies pour le poste de prince héritier, la mort de Khalifa Ben Zayed et l'éventuelle mort du roi Salman pourraient considérablement étendre les pouvoirs des deux princes héritiers, dont les effets se feront sentir non seulement aux Émirats et en Arabie Saoudite, mais encore dans toute la région. Au cours de ces dernières années, les Émirats Arabes Unis ont connu les plus grands développements dans le domaine de la politique étrangère du pays. Le pays était dans le camp de l'opposition au gouvernement de Bachar al-Assad au plus fort de la crise syrienne et a été accusé par le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan et d'avoir porté le soutien aux putschistes lors du coup d'État en Turquie. Lorsque l'Arabie saoudite a coupé ses liens politiques avec l'Iran en 2015, elle a réduit ses relations avec l'Iran et dans le cadre de la guerre au Yémen, elle s'est placée du côté saoudien. Concernant les changements fondamentaux de la politique étrangère des Émirats, ces dernières années, ce pays a cherché à se présenter comme un pays pragmatique, comme un acteur qui interagit avec toutes les parties de la région, allant de l'axe de la résistance à Tel Aviv, dans le domaine du développement économique et sécuritaire. À cet égard, après avoir conclu des accords politiques et économiques avec les responsables du régime sioniste, ce pays a tenté de se libérer de la pression de l'opinion publique du monde islamique en dialoguant avec l'Iran et la Syrie comme les pays de première ligne du front de la résistance. Prolonger le cessez-le-feu avec le mouvement yéménita Ansar Allah, faire retirer les Émirats de la guerre au Yémen et mettre fin au siège politique et économique du Qatar font partie des politiques que Ben Zayed a poursuivies ces derniers temps et devrait les mettre en œuvre plus vigoureusement lorsqu'il est le président des Émirats. Une autre nouvelle politique poursuivie par Mohamed Ben Zayed en tant que nouveau chef des Émirats Arabes Unis est de s'éloigner progressivement de l'Occident et des États-Unis et d'essayer de former de nouvelles coalitions dans la région, comme cela a été évident lors de la crise ukrainienne. En fait, en déclarant leur neutralité dans cette crise, les Émirats se sont pratiquement rangés du côté russe et contre les États-Unis. C'est la même approche adoptée par Mohamed Ben Salman, après quoi les relations saoudo-américaines sont entrées dans une phase de tension sans précédent.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. L'émir du Qatar, le Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a effectué jeudi une visite importante d'une seule journée à Téhéran, où il a été reçu par le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei. Lors de cette rencontre, le leader de la révolution islamique a exhorté les pays arabes à prendre des actions politiques concrètes et sans équivoque contre les crimes de l'entité israélienne. L'Ayatollah Khamenei a estimé que certains pays européens soutenaient davantage les Palestiniens que les pays arabes. Il a critiqué l'inaction, en effet, des pays arabes et mise en garde contre la normalisation avec le régime de Tel Aviv. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons particulièrement nous pencher sur cette visite de l'émir du Qatar qui, selon de nombreux analystes, marque un tournant dans les relations bilatérales, mais aussi et surtout le discours du leader de la révolution islamique, les déclarations de l'Ayatollah Khamenei appelant les pays arabes à s'unir pour faire face aux crimes et aux agressions de l'entité d'occupation israélienne. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a reçu jeudi 12 mai dans l'après-midi l'émir du Qatar, le Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, et la délégation qatari en visite à Téhéran. Au cours de cette rencontre, le leader de la révolution islamique a insisté sur l'impératif du développement des relations bilatérales dans les domaines politiques et économiques, affirmant que la solution des problèmes de la région passerait par un dialogue élargi sans qu'il y ait d'ingérence de la part de puissances extra-régionales. Évoquant l'intensification des crimes commis par le régime sioniste contre la nation palestinienne, l'honorable Ayatollah Khamenei a déclaré « La République islamique d'Iran s'attend à ce que le monde arabe entame une action politique concrète face aux crimes flagrants des sionistes. » En approuvant les déclarations de l'émir du Qatar pour condamner les crimes commis par le régime sioniste, le leader de la révolution islamique a affirmé que les injustices et les oppressions que les sionistes ont infligées pendant de longues décennies aux Palestiniens ont imposé aux nations arabes et musulmanes des préjudices et des amertumes. Vu cette triste réalité, la République islamique d'Iran s'attend à ce que le monde arabe entame une action politique concrète face aux crimes flagrants des sionistes, a déclaré l'honorable Ayatollah Khamenei. En confirmant les propos de l'émir du Qatar sur les événements de l'année dernière dans le quartier de Sheikh Jarrah à Qods, le leader de la révolution islamique a affirmé que certains gouvernements arabes n'avaient accordé aux Palestiniens de la ville occupée de Qods qu'un soutien infime, même en comparaison avec certains États européens. Ces gouvernements n'ont adopté aucune position efficace et poursuivent aujourd'hui sur la même voie, a ajouté l'honorable Ayatollah Khamenei. Si les gouvernements arabes se résignent à une telle approche, soit par la crainte, soit par l'espoir d'un quelconque avantage de la part du régime sioniste, ils devront savoir qu'aujourd'hui, le régime d'occupation dans l'État où il est n'inspire ni crainte ni espoir, a affirmé le leader de la révolution islamique. Selon l'honorable Ayatollah Khamenei, la solution des problèmes de la région ne serait possible que par les pays de la région et par un dialogue élargi. Les affaires de la Syrie et du Yémen peuvent être réglées par le dialogue, mais ce dialogue ne doit pas s'établir par la base de rapports de force. Or, les États-Unis et leurs alliés s'appuient sur les leviers militaires et financiers pour dicter leur volonté aux autres parties, a souligné le leader de la révolution islamique.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Toulouse M. le professeur Pierre Dortguet, philosophe et politologue, et depuis Paris, M. Garoldo Colma, analyste politique. M. Colma, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Alors, comme vous savez, jeudi, alors lors d'une visite d'une journée, alors à Téhéran, l'émir du Qatar a été reçu par le leader de la révolution islamique. Dans quelle mesure cette visite pourrait marquer un tournant dans le contexte actuel des évolutions de la région, sur fond, bien sûr, d'intensification des crimes et des agressions du régime israélien contre les Palestiniens?
Je pense que c'est une visite très importante, surtout dans le contexte géopolitique international, vu le fait que les accords de Vienne sont encore sur la table, pour ainsi dire, et qu'il faut aussi que l'Iran et que le Qatar travaillent ensemble pour leurs intérêts communs. Ça, c'est un point très important. Un danger, bien évidemment, pour l'Iran, ce rapprochement politique entre l'Iran et le Qatar présenterait peut-être un danger pour l'Iran, vu le fait que Qatar et l'entité sioniste sont très très proches. Donc ça pourrait aussi poser des problèmes de point de vue de renseignement, etc. Néanmoins, les visites sont très importantes. Il faut aussi rappeler que quand l'Arabie saoudite a fait un embargo contre Qatar en 2017, l'Iran était un facteur clé pour la sortie du Qatar de cette crise. et donc l'éclatement de l'Iran pendant cet événement. Et en fait, c'est un intérêt commun vu le deux sens et trois pierres, et aussi dans le contexte actuel où l'Europe, où l'OTAN fait les guerres contre la Russie, les guerres par procuration en Ukraine, et qu'il y a une crise d'énergie en Europe majeure, et que maintenant les Allemands essayent d'amener plus de gaz de Qatar, et les Européens peut-être pourraient être amenés aussi à réfléchir sur leur avenir énergétique, vu le fait que maintenant les prix sont en train de monter d'une façon très dramatique et qu'il faut finalement, de toute façon, conclure la paix avec l'Iran. Je pense qu'il faut prendre ça tout en compte pour comprendre l'importance de cette visite.
Merci pour ces précisions, M. Coleman. Restez avec nous, s'il vous plaît. On va tout de suite rejoindre à Toulouse M. le professeur Pierre Dortguier, philosophe et politologue. M. le professeur, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
D'aborder mes salutations à tous vos auditeurs et à votre invité que je viens d'écouter.
Monsieur le professeur, est-ce que vous nous entendez?
Oui, je vous entends très bien, oui. Est-ce que vous m'entendez là?
Très bien.
Allô?
Oui. Monsieur le professeur, Monsieur Coleman a souligné l'importance de la visite de l'émir du Qatar et les différents aspects et dimensions, en effet, de ce rapprochement. D'abord, quel sera l'impact de cette visite, de ce rapprochement plutôt, sur la donne régionale et internationale, et puis, et surtout, en ce qui concerne les développements, les récents développements dans les territoires palestiniens? Il paraît que là aussi, en effet, le leader de la révolution islamique a lancé, en effet, adressé un sérieux avertissement aux pays qui cherchent à normaliser avec l'entité sioniste, prévenant que, justement, alors désormais, le régime sioniste n'inspirait ni crainte, ni espoir.
C'est très juste, évidemment. Je crois que l'intérêt, disons, l'originalité, si je puis me permettre de dire, des propos du guide suprême, viennent de ce qu'il représente au Qatar et aux autres dirigeants arabes qui sont tentés d'accord avec l'entité sioniste et autres, qu'il y a non seulement une communauté d'intérêts entre les États, mais qu'il y a aussi une communauté de destin. Et que s'il y a une crise, et disons plus qu'une crise, s'il y a véritablement un affaissement de la cause palestinienne, ceci va, affecter l'ensemble de la société arabe, en particulier musulmane, bien sûr, les chrétiennes d'Orient. C'est-à-dire qu'il y a une solidarité entre les membres, entre les pays. Et que les intérêts économiques, on peut dire les intérêts égoïstes, qui sont humains, bien sûr, doivent passer en second lieu, voyez-vous. Or, aucunement le cas jusqu'à présent. Chacun tirait, si je puis dire, son épingle du jeu. Évidemment, sur le plan de la guerre au Yémen, par exemple, nous pensons que cette entrevue portera ses fruits, car si cela pouvait adoucir, disons, la cruauté du sort infligé aux Yéménites, évidemment, on ne peut refuser. Mais ce rapprochement, voyez-vous, n'est pas un rapprochement entre le Qatar et l'Iran, le Qatar et notre pays, le Qatar et la cause palestinienne, par exemple, n'est pas du tout une affaire de circonstances. C'est une nécessité. Et je dirais une dernière chose, c'est que, pour conclure, c'est que la réflexion que nous saluons, comme Européens, bien sûr, c'est celle qui est de l'Ayatollah Khamenei, qui dit que beaucoup de pays européens ont fait plus pour la cause palestinienne que n'ont fait des États arabes. Ça, je le reconnais ici. Je ne peux pas juger pour la France, mais je peux juger en particulier pour la Suède, pour l'Allemagne, etc. C'est vrai que l'histoire jugera, mais ceux qui visitent ces pays savent comment les Palestiniens sont accueillis, comment, ils peuvent maintenir leur existence nationale à l'intérieur de la communauté. Voyez-vous, disons qu'on dit l'histoire jugera. Oui, je crois qu'elle a déjà jugé, mais il faut, disons, aussi comprendre pour les États arabes, quelle que soit leur fortune, voyez-vous, quel que soit leur argent, que ceci n'est pas suffisant. Et il y a un destin populaire, et ça, ce destin national, il échappe à l'économie. Il est indépendant de l'économie. Il est une question morale. Il est une question, disons, plus élevée que les questions, disons, matérielles. Je crois que ça, c'est une conscience qui est très difficile, bien sûr, de faire admettre aux gens du Golfe. Et c'est cependant avec cette conscience trop matérielle que les Anglais, les Américains, et d'autres d'ailleurs que les Anglais et les Américains, je sens que je les nomme, ont créé une clientèle en Orient qui est néfaste à l'ensemble des intérêts de l'Orient.
Merci pour ces éclairages, monsieur le professeur. Restez avec nous. Monsieur Coleman, alors, la visite de l'émir du Qatar à Téhéran est intervenue au lendemain du déplacement secrétaire, en effet, de l'Union européenne pour l'action extérieure, le négociateur, le coordinateur de l'Union européenne dans les pourparlers de Vienne sur la relance de l'accord nucléaire. Est-ce que là, vous voyez des liens avec, entre cette visite et les pourparlers qui sont pour le moment suspendus?
Tout à fait. Je pense que, de toute façon, il y a la contradiction de la politique européenne, c'est que c'est les États-Unis qui les pilotent. Les États-Unis ont provoqué la guerre en Ukraine, continuent de provoquer cette guerre. Les crises énergétiques de l'Europe est une crise qu'on ne peut pas résoudre si on ne trouve pas une alternative au gaz russe pour l'instant. Et bien évidemment, tout le monde regarde vers le Qatar et l'Iran, parce que l'Iran a la capacité aussi d'approvisionner l'Europe d'une façon majeure. Donc je pense que tout ça, ça prend en compte, surtout le rapprochement important entre l'Iran et Qatar. Qatar pense pouvoir jouer un rôle intermédiateur dans la négociation avec les États-Unis. Il faut rappeler, par contre, que pour ce qui concerne le terrorisme, etc., le Qatar a joué un rôle majeur dans la déstabilisation de plusieurs pays. Il ne faut pas oublier que c'est le Qatar, surtout, qui a soutenu la révolte contre Gaddafi en Libye en 2011, et puis aussi la déstabilisation de la Syrie. Maintenant, le Qatar semble avoir changé un peu de cours. Ils ont fait la paix, il y a eu des échanges importants avec la Syrie, avec le président Assad, et maintenant surtout avec l'Iran. Et je pense que Qatar aussi se sent un peu menacé par les Occidentaux. J'ai entendu récemment l'émir de Qatar dire qu'il y avait un programme de changement de régime piloté par les États-Unis contre le Qatar. Et donc, je pense qu'ils ont des intérêts communs avec l'Iran. La Turquie aussi est une force majeure dans ce dossier. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a beaucoup de contradictions géopolitiques à considérer ici, du fait que, par exemple, quand la politique est... Le Qatar est très, très lié à l'OTAN, enfin à la France. Il y a une base, c'est les Français qui forment une grande partie des militaires qataris. Et aussi, le Qatar est bien évidemment très proche des États-Unis et Israël. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Ça ne va pas être facile de s'approcher trop avec Qatar, mais il faut le faire parce qu'ils partagent ensemble le champ de pince. Donc, ils n'ont pas le choix que de trouver une solution. Et en fait, c'est très positif. Ce qui est en train de se passer actuellement, on peut dire, c'est que dans la région, il y a plusieurs signes positifs de rapprochement entre les pays. Même l'Arabie saoudite et l'Iran, les relations, je dirais, actuellement sont plus bonnes qu'avant. Donc, il y a plusieurs possibilités de résoudre cette crise de nucléaire. Bien évidemment, c'est pour l'Europe, c'est extrêmement important, surtout pour l'industrie européenne, d'investir en Iran. Pour les Iraniens, en contrepartie, ils ont besoin de développer leur raffinement, le processus de pétrolière. Et donc, c'est gagnant-gagnant. Mais la question, est-ce que les États-Unis vont permettre un accord? Est-ce qu'Israël va essayer de le saboter?
Merci, merci encore, monsieur Coleman. Monsieur d'Ortiguier, donc, il y a d'innombrables enjeux dans ce rapprochement. Alors, l'Europe se voit confrontée actuellement à une grave crise énergétique en raison de la guerre en Ukraine. Il y a bien sûr cette nécessité de parvenir à un accord sur la relance de l'accord nucléaire de 2015. Des négociations qui sont actuellement suspendues en raison des tergiversations, en effet, notamment des États-Unis. Dans quelle mesure ce rapprochement pourrait nous offrir une perspective de parvenir à un accord, non seulement pour parler de Vienne, mais aussi et surtout en ce qui concerne cet enjeu énergétique, c'est-à-dire cet approvisionnement en gaz pour les pays européens et, comme vous le savez, le Qatar et l'Iran qui détiennent en effet des réserves importantes du gaz mondial.
Il est certain que un des aspects positifs de la crise que nous connaissons en Europe, je veux dire la crise ukrainienne, c'est là son principal avantage, une tendance à l'indépendance européenne. C'est-à-dire au fait que les Européens veulent, pour des raisons énergétiques bien sûr, mais pour des raisons disons, plus larges encore, non pas se débarrasser des tutelles, mais disons avoir une responsabilité dans les affaires. C'est-à-dire ne pas abandonner aux Anglais et Américains, par exemple, le sort de leur conduite. De même que les pays de l'Est, évidemment, sont réticents vers la Russie, depuis toujours à cause du communisme. Et bien de même, les pays occidentaux, comme l'Allemagne, etc., elles-mêmes développent véritablement, positivement, une tendance, disons, à l'indépendance. Et c'est pour cela que les conséquences en sont très positives, à moyen terme, je parle pas à long terme, pour l'Iran et pour, disons, l'approvisionnement. Je crois que cette crise n'est pas une crise, disons, aux dimensions aussi terribles qu'on veut le faire entendre, tout au moins pour l'instant, mais quel est un test, disons, je parle de la crise européenne, un test pour justement ce que j'appelle l'indépendance, la volonté d'indépendance des nations. Voyez-vous ? Et je crois que les États-Unis eux-mêmes ne sont pas unifiés, c'est-à-dire n'ont pas une tendance unique. Il y en a une partie certainement qui, des Américains, qui veut, disons, accorder à l'Europe une certaine autonomie. L'autre, au contraire, qui est dans les mêmes fantasmes, disons, impérialistes, qui ont conduit, du reste, le monde à une division, vous voyez, en 45-47. Je crois que les événements sont... Le vent, disons, est favorable à une certaine reprise des communications, des relations avec l'Iran, je le crois. Et l'entité sioniste, elle a plusieurs orchestres, voyez-vous. Elle a un orchestre russe, je le dis ouvertement, elle a un orchestre ukrainien, elle a un orchestre occidental. Disons, c'est un festival de musical mondial. Je m'excuse de parler ainsi, ça n'a rien de comique, mais on peut caricaturer quand même, souvent pour déceler la vérité. Je crois qu'elle n'aura pas le dernier mot. Elle sème, cette entité sioniste, sème la confusion, voyez-vous, au fond que les... elle veut diviser les gens pour régner, voyez-vous. Et nous, nous voulons en Europe, au contraire, disons, nous réunir autour du bon sens. C'est ce que l'Ayatollah Khamenei a relevé, voyez-vous, pour pouvoir justement résoudre d'abord définitivement la question palestinienne sur les bases, les mêmes bases que le président de Gaulle chez nous avait indiqué en 67, voyez-vous, des bases raisonnables. Bon, est-ce que cela est possible? Oui, c'est possible, et j'insiste sur ce fait, si l'Europe maintient son unité, voyez-vous. Si elle est désunie, et justement à cause de la crise actuelle, elle perdra de sa force. Et les conséquences en seront néfastes, justement, à tous les pays d'Orient, y compris à l'Iran. Nous ne pensons pas que ce soit la voie du destin. Nous pensons au contraire que, comme toujours, disons, la justice, la raison, l'emporte sur les illusions et les mensonges.
Merci encore. Il nous reste 3 minutes. Une toute dernière question à M. Coleman. M. Coleman, alors, pour terminer cette émission, alors, j'aimerais bien citer cette phrase du leader de la révolution islamique. Là où le régime sioniste se présente, alors il sème la corruption, la confusion Est-ce que, cet avertissement, est-ce que ce constat, est-ce que ce rapprochement, cette possibilité de communication, comme disait M. le professeur d'Ortiguier, entre les pays de la région, en l'occurrence l'Iran, le Qatar, pourrait amener les pays, notamment les pays normalisateurs, à une réflexion, voire à une prise de conscience sur le danger de ces relations avec l'entité sioniste et sur l'importance de la cause palestinienne.
Tout à fait. Je pense que la possibilité existe toujours, mais il faut une prise de conscience par les pays arabes qu'il faut arrêter de s'entretuer, il faut arrêter de se déstabiliser l'un à l'autre. Ils ont passé vraiment trop de temps depuis la Deuxième Guerre mondiale en guerre l'un contre l'autre. Et donc, il faut s'unifier, il faut un front uni des pays arabes avec l'Iran pour trouver la paix et pour avoir la force pour faire face à l'entité sioniste qui n'a pas seulement une puissance mais une puissance dans l'Occident qui contrôle une grande partie des médias en Occident et du discours, tout ce qui est publié, tout ce qui est même discutable. Les crises au Moyen-Orient et surtout les crises des palestiniennes. Donc, je pense que c'est le mot d'ordre, vraiment, c'est unification et front uni avec des propositions concrètes pour le processus de paix. C'est tout à fait possible. C'est peut-être plus possible que jamais, vu le fait que maintenant, Qatar parle avec l'Iran. Mais il faut arrêter des guerres par procuration dans la région qui, jusqu'ici, étaient pilotées d'une grande partie par Qatar. Donc, c'est un espoir, c'est une chance. Mais il faut marcher prudemment, il faut aussi être réaliste, parce que pour les accords et surtout du côté qatari, c'est de résoudre le problème de Vienne, le problème de nucléaire. Mais je pense que la sincérité des Qataris vis-à-vis de la cause palestinienne est très, très doutable. Douteux, je dirais. Mais néanmoins, il y a un espoir quand même.
Merci, merci infiniment. Garoldo Colma, analyste politique depuis Paris. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je remercie également M. le professeur Pierre d'Ortiguier d'avoir apporté ces éclairages à notre émission. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
La poésie persane avant et après la révolution islamique. Troisième partie. Après la révolution islamique d'Iran, 1978, le terrain fut propice à l'essor des jeunes poètes novateurs. On peut dire que si la révolution n'avait pas eu lieu, leur ardeur poétique se serait amoindrie, voire totalement éteinte, ankylosée par la censure et la répression. Mais avec la révolution islamique, ils parvinrent à Mais avec la révolution, ils parvinrent à reconquérir une position de force. Les événements qui défilaient devant eux comme une coulée de lave et desquels dépendait leur existence matérielle et émotionnelle ne pouvaient les laisser apathiques et insensibles. Contenant tenu de Chamlou et de Forour Farrokhzad,
Les auteurs ne parvenaient pas à trouver un langage approprié. L'œuvre de Chamlou constitua un amalgame d'expériences colorées qui marquèrent la poésie des 50 dernières années. Mais les événements défilaient à toute vitesse. La réalité était bien plus amère, poignante et âpre que le laisser entendre l'expression raffinée, noble, parfaite et symbolique de Chamlou ou les murmures intelligibles de Forouk. Peu de temps après la Révolution, la guerre entre l'Iran et l'Irak éclata et la vie se défraîchit. Les responsables gouvernementaux considéraient les États-Unis et les opposants comme responsables du chaos et les opposants fustigeaient l'incompétence des gouverneurs. Ces deux opinions constituèrent le thème de la poésie post-révolutionnaire. Avant la Révolution, les poètes engagés écrivaient dans le but d'assouvir leurs rêves. Mais à la fin des années 70, face à leur existence politisée, à laquelle il leur était impossible d'échapper, leurs poèmes se chargèrent de connotations politiques. Leur poésie, lieu d'expression de leur esprit bouleversé, attira l'attention des jeunes poètes que nous nous étions à l'époque, vers l'automatisme des idées, dans la même veine que les créations rattachées au cri violet et à la nouvelle vague, au moyen duquel nous pouvions pénétrer dans les profondeurs inconnues de notre inconscient. Pour les poètes de notre génération, le surréalisme de la nouvelle vague nous offrait une nouvelle voie pour la formulation des problèmes épineux. C'était une question de vie ou de mort. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, dans les critiques littéraires et sociologiques, on parle du phénomène des poètes des années 80, dit le poète Shams Langaroudi. Ces années coïncidèrent avec l'éclatement de l'Union soviétique qui laissa de nombreuses questions sans réponse. L'alternance des échecs et des déchéances amena à douter des idéaux et suscita l'idéal refuge. La poésie libre était toujours en quête d'équilibre. Tantôt elle abordait les questions philosophiques, tantôt elle fuyait l'idéal et devenait technique. Ses multiples aspirations préoccupaient les intellectuels, religieux ou laïque, du milieu poétique à l'orée d'un véritable terrain vague. La caste des versificateurs éreintés choisit l'option d'une poésie apaisante, simple et humanitaire, déjà mise en pratique par les romantiques des décennies passées. Les néo-traditionalistes comme Fereydoun Moshiri, Hamid Mossader et Hushang Ebtehaj avaient le même poids que les Ahmad Chamlou, Aravan Sales, Sohrab Sepehri, Forouk Farrokhzad ou Nima Yushij. Le recueil débordement de Yadollah Royaï, poète de la nouvelle vague, et du Hajm de Mas, fut publié à Paris avant de paraître en Iran. Il retint l'attention d'un certain nombre de poètes qui recouraient volontiers à la technique aux dépens de l'idéal. Son succès ne dura pas, mais le débat autour de la forme et de la langue prit de l'ampleur au début des années 90. La poésie Hajm, qui dérive de la nouvelle vague, fut mise en pratique par Royaï à la fin des années 60. Le débat que suscita ce recueil se prolongea jusqu'à intégrer les recherches des formalistes russes, tant défendues par Royaï. De nombreux textes fondamentaux dans ce domaine furent traduits en persan. Le structuralisme et le déconstructionnisme s'imposèrent jusqu'en 1994, année où Reza Barohani publia son recueil de poèmes intitulé « À l'attention des papillons », avec une postface exhaustif. Pourquoi ne suis-je plus un Nimaïen ? Reza Barahani enseignait la littérature à l'université de Téhéran. Démis de ses fonctions après la Révolution, il anima à son domicile des ateliers de poésie. L'article susmentionné résultait de ses recherches et de son enseignement de la philosophie et de la poésie. Il y abordait les contraintes de la poésie nimaïenne et proposa une thèse que ses adeptes qualifieront plus tard de post-moderne. À l'intention des papillons, en offre un exemple. La publication de cet article coïncida avec l'apparition d'autres articles et ouvrages concernant le postmodernisme qui enflammait alors le milieu des jeunes intellectuels. Quelques années plus tard, d'autres textes ainsi que des poèmes dits postmodernes, dans une optique différente de celle adoptée par Barahani, ont fait date. La poésie postmoderne, à côté des autres formes de vers libres, généralement philosophiques, structurales et surréalistes, anime les cercles poétiques actuels de l'Iran. Aujourd'hui, la poésie élitaire et la poésie populaire iranienne sont dissociables. Les poètes ont recours à la complexité, alors que les lecteurs préfèrent les poètes des précédentes décennies. Dès la semaine prochaine, nous commençons à vous présenter quelques-uns de ces poètes modernes. D'ici là, au revoir et passez une très bonne semaine. Thank you.